Le studio Kalangu que vous écoutez, il est 18h, le journal en français dans une présentation de Nafis Adam. Les titres de ce journal, retour sur l'affaire de l'Uranium Gate. Le rapport officiel de la commission d'enquête parlementaire a été rendu public. Les deux députés d'opposition, membres de la commission, ont de leur côté fait paraître leur propre rapport. Détails de cette affaire et réactions de la société civile dans ce journal. Un projet de loi organique portant code électoral a été adopté hier au cours des conseils de ministres. Détail dans quelques instants. De la culture dans cette édition, un concert au profit des orphelins de SOS Village d'Enfants aura lieu ce soir dans l'enceinte même de l'établissement. Une initiative d'un orphelin de cet orphelinat animateur dans une radio de Niamey. Enfin, en prélude à la fête nationale de l'artisanat, prévue pour demain, une foire artisanale se tient depuis Zéragnamé. On en parle dans la partie magazine. Bonsoir à tous. L'affaire de l'Uranium Gate avec la publication des deux rapports de l'enquête parlementaire sur l'affaire Uranium Gate déposée sous le bureau de l'Assemblée nationale. L'un par le président de la commission, l'autre par les deux députés d'opposition membres de la commission. La synthèse des deux rapports avec Soumana Amadou.
Dans le premier rapport, celui déposé par le président de la commission d'enquête, les résultats des investigations menées confirment qu'une transaction a bel et bien eu lieu entre Areva et la société de patrimoine des mines du Niger Sopamine. Mais l'uranium qui a fait l'objet de la transaction n'est pas l'uranium du Niger. Des comptes ont été ouverts dans des banques étrangères, notamment à Dubaï. L'argent transféré à Dubaï qui a servi à l'achat de l'uranium n'est ni de l'État nigérien, ni de la société Sopamine, qui a reçu une marge suite à cette transaction. Celle-ci a permis de financer certaines dépenses de sécurité. Le rapport précise qu'il y a un doute sérieux sur certains documents publiés par ces journaux. Elle note que d'autres sont qualifiés de faux par les personnes censées les avoir signés ou reçus. En conclusion, la commission considère la transaction comme une opération normale de trading. Le second rapport, celui des députés de l'opposition membres de la commission, dit se fonder sur les auditions de Hassoumi Massaoudou, directeur de cabinet du président de la République à l'époque des faits, et l'ancien directeur général de la Sopamine, Hamadou Hamma. Sur la base de ces auditions, il demande que l'Assemblée nationale vote la mise en accusation de l'actuel ministre des Finances.
Réaction à présent de la société civile suite à la publication de ces deux rapports. Joint au téléphone par le studio Kalangu, Madame Soli Ramatou, membre du ROTAB, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, dit ne pas être surpris que la classe politique nigérienne n'ait pu se mettre d'accord avec sur la rédaction d'un seul rapport. On l'écoute.
Non, on n'est pas surpris, on s'attendait à un truc comme ça. On savait bien que ça n'allait pas être facile, mais un scénario comme celui-ci, c'est la politique du Niger. C'est comme ça, les politiciens, les intérêts du Niger ne sont jamais mis en avant. Non, mais c'est une commission parlementaire. Seuls les députés font partie de la commission. Et ces députés-là appartiennent chacun à un parti politique, à une majorité ou à l'opposition. On a suivi toutes les raisons que l'opposition a avancées pour faire un rapport autre que celui de la commission. Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement au sein de la commission, mais ça veut dire qu'il y a Anguille Souroche. Mais de toute façon, la société civile ne comptait pas sur ce rapport pour faire son action. Nous avons déjà déposé une plainte contre X au niveau de la justice et on attend la caution de 20 millions de notre part pour pouvoir ouvrir le dossier. Donc déjà, on s'attendait à cela. C'est pour cela qu'on ne comptait pas beaucoup sur cette action pour que la lumière soit faite.
Madame Soli Ramatou, membre du ROTAB, a joué au téléphone par Adama Dawaki. Le Conseil de ministres a examiné et adopté un projet de loi organique portant code électoral. Ce texte est le fruit d'une réflexion menée depuis plus d'un an au lendemain des élections de 2016. Détail de ce qui devrait changer en matière électorale avec Tarnan Foudey Ahmed.
Le communiqué du Conseil des ministres évoque le regroupement et l'harmonisation des textes en matière électorale, la révision de certains délais, la création d'une CENI permanente. Il est aussi question de travailler à la confection d'un fichier biométrique et l'instauration d'un bulletin pour tous les scrutins. En outre, pour rendre possible certaines des réformes envisagées, le Conseil a aussi adopté un projet de loi portant révision de plusieurs articles de la Constitution. Ces deux projets de loi seront transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Ce travail est fondé sur les évaluations du processus électoral de l'année passée mené par les partenaires techniques, Organisation internationale de la francophonie et NDI National Democratic Institute en collaboration avec la CENI. Ils avaient relevé plusieurs lacunes dans le code électoral du Niger. La nécessité de les corriger et de les réformer s'est imposée. C'est notamment ce qu'avait souhaité le Conseil national de dialogue politique, l'instance qui regroupe toutes les formations politiques du pays.
Récit signé Tarnan Foudey Ahmed et a noté que le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant révocation du maire de la commune rurale de Sassoumbrou, département de Magaria. La suite de cette édition, Reporters sans frontières a publié mercredi dernier son rapport sur le classement mondial sur la liberté de la presse au titre de l'année 2017. Dans ce rapport, le Niger occupe la 62e place, la 62e place reculant ainsi de 9 places par rapport à sa position de 2016. Ngungu Mohamed Anthony s'est entretenu avec Issa Madougou. Il est membre de la société civile et secrétaire général à l'organisation du cadre d'action pour les droits humains.
Pour qui connaît aujourd'hui la situation des droits humains, et en particulier de la liberté d'expression dans notre pays, c'est bien que la perte de ces 9 places se justifie bien. Parce que quand on sait la série d'intimidation et de manipulation, d'interpellation des acteurs de la presse, moi je pense qu'on a même eu de la chance à perdre 9 points seulement. Du côté du pouvoir, on ne voit pas des efforts pour améliorer la situation de la liberté de la presse dans notre pays. Quand on voit les bavures répétées et sans sanction, ça ne rassure pas. Et moi, je pense que c'est une synergie d'action qui doit s'imposer. Qu'il y ait des ateliers où toutes les parties sont réunies pour échanger sur la nécessité de travailler en synergie lorsque la situation s'impose et les parties se retrouvent sur le même terrain. Voilà un peu ce que nous voyons.
Sollicité par le studio Kalangou, le ministère nigérien de la communication n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant. Il indique qu'il le fera la semaine prochaine. En bref, Amaradi, le journaliste de la radio Saraounia, Laminou Gonda, a été interpellé hier puis placé en garde à vue par la police judiciaire. Selon la police, il est accusé de propagation de fausses nouvelles. Il a par la suite bénéficié d'une liberté provisoire. Cependant, il y a été demandé de se présenter au parquet mardi prochain. Cette interpellation fait suite à un commentaire posté sur sa page Facebook relatif à la découverte d'un cadavre dans le monument du rond-point du gouvernorat mercredi dernier. Dans sa publication, il affirmait que l'individu avait été égorgé, ce qui s'est révélé inexact. En bref, aux environs de 2h du matin de la commune de Tabilote, région d'Agadez, trois hommes munis d'armes blanches ont attaqué hier un commerçant à son domicile. Selon Adam Essengal, le maire de la dite commune, la victime a été légèrement blessée. 7 millions de francs CFA et de l'or d'une valeur de 2 millions de francs CFA ont été emportés, mais pas de perte en vue humaine. Autre aspect de cette édition, déclarée en épidémie il y a quelques jours, le département de Madarufa continue à enregistrer de nouveaux cas. La semaine dernière, 88 nouveaux cas ont été enregistrés. Ces malades ont été pris en charge en attendant le démarrage de la campagne de vaccination de riposte selon le directeur régional de la santé publique, Dr Idi Kalla.
Entre le lundi et le mercredi, on a plus de 25 cas qu'on a enregistrés aussi. On a été sur le terrain pour un peu encourager les agents, voir si toutes les dispositions pour la prise en charge des cas maintenant sont en train d'être exécutées. Notamment, les médicaments sont disponibles, les agents maîtrisent les protocoles de prise en charge, la surveillance, tout ça là. La souche incriminée, c'est la souche C. On attend le vaccin incessamment. Le niveau national privilégie d'avoir les C6 en épidémie. C'est Danyissa, Ignaloa, Roroka, en une commune mesure un peu Maraka. Nous, le souhait, c'est de vacciner tout le district, mais malheureusement, les 147 000 doses ne peuvent que vacciner pour le moment la zone en épidémie.
Des propos recueillis par Mohamed Maman. À En culture, Hassan Cheibou, l'animateur de l'émission Rythme du Niger du groupe Labari, organise cet après-midi un concert de charité à l'orphelinat SOS Village d'Enfants. Lui-même orphelin, l'initiateur Hassan et son frère jumeau ont perdu leur mère à leur naissance le 15 novembre 1995. Une semaine après, ils ont été accueillis par cet orphelinat qui les a élevés, éduqués et hébergés jusqu'à ce jour. Cheibou Hassan au micro de Moussa.
C'est un réel plaisir pour moi d'organiser un événement au nom de mon émission et faire un concert de charité à mes petits frères orphelins qui sont là. Les recettes générées seront présentées comme don de bonne volonté à l'endroit des orphelins et les gens qui nous ont soutenus aussi. Avec tous les artistes se sont portés volontaires d'abord pour l'émission qui les concerne. Comme c'est aussi une occasion pour aider les orphelins. Tous ces artistes-là qui sont aujourd'hui derrière nous se sont portés volontaires pour que cet événement, on puisse le faire dans le bon cadre. Au niveau de l'administration, ils m'ont beaucoup encouragé parce que ici au Niger, c'est une première, un jeune SOS qui entend d'aider ses frères orphelins. Donc ils ont beaucoup encouragé cet événement et on a le soutien de SOS Village d'Enfants aussi.
Du sport en bref, les éliminatoires du championnat national, la première division, se poursuivent avec les matchs de la 19e journée. Hier, 27 avril, se sont disputées les premières rencontres à Niamey. Un match avancé, AS Police l'a emporté 1-0 face à Urana FC. Sahel et Akokana ont fait match nul. Aujourd'hui, au stade municipal, Rensing jouera contre l'ASGN à 16h30. Autre bref, le MENA Cadet est qualifié pour la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans qui se tiendra au Gabon se prépare activement. Selon Inoussa Sungaze, président de la commission des compétitions de la FENIFOOT, les cadets se rendront le 2 mai au Cameroun pour continuer leur entraînement en attendant le début des compétitions qui débuteront du 14 au 28 mai prochain à Libreville au port Gentilly.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
La partie magazine de cette édition au village artisanal de Niamey se prépare depuis hier à la 24e édition de la fête nationale de l'artisanat. Plus de 500 exposants venus des pays de l'Yomoa et du Nigeria y prennent part. Officiellement, l'ouverture est prévue pour demain samedi 29 avril. Tout sur la gamme des produits présentés avec Alassane Abdou, rapporteur de la sous-commission exposition pour la fête nationale de l'artisanat.
Il y a des produits textiles habillement, il y a des produits de la maroquinerie, il y a des produits de la cordonnerie, il y a des produits de tradis praticiens, il y a aussi des produits de transformation agroalimentaire. Il y a presque tous les produits. En fait, c'est une fête qu'on fait dans toutes les régions avant et on a réaménagé ça pour faire une exposition vente qui a été commencée l'année passée pour que tous les artisans du Niger se retrouvent ici à Niamey. Pour qu'ils puissent faire la promotion de leurs produits, puisque le grand public nigérien puisse connaître les produits nigériens.
Et parmi les artisans, Mohamed Lamrani vient du Maroc. Il entend faire découvrir aux visiteurs le savoir-faire de son pays. D'ailleurs, ce n'est pas sa première visite au Niger. On l'écoute.
J'étais une fois ici à la foire de sa femme. C'est pour ça que je connais maintenant les gens qui font les foires et m'ont invité. Moi, je suis fabricant de chaussures. J'amène les chaussures, les ceintures, les portefeuilles en cuir. Avant sa femme, il y a beaucoup de clients ici et on n'a pas encore commencé. On espère que les gens vont venir parce que les gens ils connaissent la qualité, on a de bonnes qualités.
L'ouverture officielle est prévue pour demain, mais les visiteurs sont déjà là. L'un d'eux a répondu aux questions de notre reporter Moutari Mahmadou. Il apprécie la qualité des produits et articles à présenter, mais ce qui fait la différence, dit-il, sont les prix.
Je suis venu chercher des chaussures et puis un sac. En fait, les produits artisanaux, je ne trouve pas ça cher. Mais seulement, comme le moment est aussi un peu difficile, donc je ne sais pas si en ce moment les marchés sont porteurs pour tout le monde. Puisqu'il y a une crise. Mais les produits sont de bons produits.
À noter que le thème retenu cette année est l'apport de l'artisanat dans l'économie nationale. L'ouverture officielle aura lieu demain samedi 29 avril au village artisanal au quartier Wadata de Niamey. Et c'est la fin de cette édition. Retrouvez tout de suite le forum de la presse.